Je rapproche à aujourd'hui une sainte veuve extrêmement populaire dans toute l'Europe. Et je crois que l'on connaît aussi sainte Françoise Romaine, qui a été mère de famille, qui a eu un mari heureusement merveilleux, et elle était elle-même une femme exceptionnelle, et qu'elle a épousé, chose étonnante encore une fois, à l'âge de 12 ans. Ça se faisait comme ça à l'époque, puisque Françoise Romaine est morte en l'an 1440. Mais je vous parlerai d'autres femmes ce mois-ci, en particulier de Sainte Mathilde, de Sainte Louise, de Marillac, de Marie Marchambon, évidemment de la Sainte Vierge le 25 mars. Et voilà. Donc, pour vous parler de Sainte Françoise Romaine, c'est une façon d'aborder le problème de l'Église et de la femme à travers les siècles. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je me permets au début simplement de spécifier que, au temps de la naissance du christianisme, la femme était extrêmement déconsidérée en Grèce et à Rome. Elle n'avait, pour ainsi dire, aucun pouvoir. Elle a eu énormément de pouvoir au Moyen-Âge quand, après 1000 ans de libération de la femme que le christianisme a accompli, il faut vraiment lire les textes, hein. Il faut voir jusqu'à quel point déjà, au temps des apôtres, au temps de Saint Paul, qu'on a accusé de façon, à mon avis, très fausse d'être un misogyne, mais il faut vraiment lire les textes. Il faudrait qu'un jour j'analyse tout ça avec vous et que j'aille au fond de la question. C'est très compliqué, le jour de la fête de Saint Paul, on pourrait faire ça. Et de voir finalement combien l'Église a réussi même à éviter les infanticides. Ça a pris 600 ans. Les parents tuaient facilement leurs enfants pour s'en débarrasser. Comme ça se pratiquait en Chine et dans bien des pays, le respect de la vie profonde est un respect qui est en grande partie dû au christianisme. On le voit partout, les orphelinats, les hospices, les hôpitaux qui ont été fondés. Toute cette charité qui s'est accomplie à travers les siècles, en grande partie justement par des femmes. Des femmes qui prenaient possession d'elles-mêmes, qui avaient une audace, un courage, des personnalités fortes et vives, bien que souvent elles venaient de milieux les plus simples, pour accomplir des choses tellement extraordinaires dans l'histoire de l'Église. Et vous savez que même à certains moments, elles ont fondé des doubles monastères où elles étaient abbesses du double monastère où il y avait d'une part des hommes et de l'autre part des femmes. Et c'était elles qui dirigeaient. Il faut d'ailleurs lire de Régine Pernoud pour en finir avec le Moyen-Âge. Cet ouvrage clé qui nous montre bien jusqu'à quel point le christianisme est arrivé lentement mais sûrement à une libération extraordinaire qui s'est éteinte, chose étrange, avec le siècle des Lumières. Et petit à petit, au 19e siècle, la femme a eu moins de considération. Mais pour renaître avec un féminisme qui, parfois, a des tangentes qui nuisent à la femme. C'est pas moi qui le dis, c'est German Greer. German Greer qui a été la plus grande militante au monde avec Simone de Beauvoir pour la cause de la femme, qui disait que ce qui est arrivé à la femme, finalement, est une chose extrêmement pénible que German Greer considère comme terrible. Il faut lire German Greer. Hein? Et c'est là cette Australienne incroyante qui a été finalement mise au rencard parce qu'elle a au regard de certaines féministes les plus extrémistes a été une espèce de traîtresse au mouvement féministe, parce qu'elle a voulu vraiment respecter la femme et vraiment l'aimer. Ce qu'elle faisait, c'est parce qu'elle aimait la femme, sans cesser d'aimer l'homme, d'aimer l'humanité, quoi. Je vous parle donc aujourd'hui de Sainte Françoise Romaine. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Françoise Romaine, une veuve, c'est une sorte de Thérèse d'Enfant Jésus, dans un sens, si vous voulez. Elle est pleine d'amour. Mais c'est une Thérèse d'Enfant Jésus qui est dans le monde. Elle porte de très belles robes, elle porte des bijoux, des robes fantastiques. Elle est très à l'aise, très riche. Elle est de famille noble, elle est née en 1384, au début de l'année, à Rome. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs Françoise Romaine. C'est une Romaine. Son père, c'est Paolo de Bussy. et sa mère, qui est noble aussi, est Giacobella Drofredeschi. Ils sont alliés, ses parents, de très près à des familles très importantes, les Orsini, les Savelli, les Mellini. Alors, à 6 ans, François se familiarise toutefois avec la pratique, chose étrange, des ceux qu'on appelait les saints pénitents. C'était des gens qui croyaient qu'en exagérant sur les pénitences, on plaisait beaucoup à Dieu, car Dieu avait besoin qu'on souffre pour lui plaire. C'est une orientation un peu tragique dans un sens, mais il faut comprendre l'époque. Et alors, elle aime bien, chose étrange, à l'âge de 6 ans, les légumes cuits à l'eau. Essayez de faire manger des légumes cuits à l'eau à vos enfants de 6 ans, c'est très difficile. Mais elle, elle les aime. Elle est déjà assez surprenante, donc. Et elle entreprend de lire souvent la vie des saintes. Elle préfère les saintes aux saints. Alors, un petit caractère féministe à 7-8 ans. Elle fait chaque jour la visite de quelques églises. On faisait ça quand on était jeune. Les églises étaient ouvertes, et en particulier le jeudi saint, on avait beau avoir 7-8-10 ans, on faisait ça. Ça se pratiquait encore dans les années 30. Mais elle, elle le pratique personnellement, d'une façon plutôt constante, tout au long de l'année. L'église favorite de sa mère était Santa Maria Nuova. C'est dans le forum. Quand on va à Rome, là, il y a le forum romain avec toutes les ruines et tout ça, puis il y a une église, là. Et cette église, comme vous savez, ceux qui sont allés à Rome, elle s'appelle Sainte-Françoise romaine. Mais elle s'appelait dans ce temps-là Santa Maria Nuova, et elle était fréquentée par la mère de Sainte-Françoise romaine et par Sainte-Françoise elle-même, avec sa future belle-sœur, vous verrez tout à l'heure. Et cette église de Santa Maria Nuova était desservie par des bénédictins. Car l'âme de Sainte-Françoise romaine, c'est une âme de bénédictine, au fond. Elle est très marquée par ça, et on la considère un peu comme la patronne des oblats et des oblates bénédictines. Moi-même, je suis oblat bénédictin de Saint-Benoît-du-Lac depuis 1947. Hein. C'est une façon de vivre dans le monde en le restant attaché à un monastère et de se laisser imprégner par la spiritualité, spiritualité essentiellement trinitaire et liturgique, qui est celle des bénédictins. C'est la grande spiritualité catholique profonde. Sa mère confie la direction de Françoise à l'un des bénédictins, dont Antonio di Montesavello. Et cette direction va durer, croyez-le pas, 35 ans. C'est immense. Hein? Tous les mercredis, cette petite fille vient se confesser. Je me demande qu'est-ce qu'elle peut bien lui raconter. Elle a une conduite remarquable. Mais elle est guidée. Hein? Et son directeur la comprend. Donc, elle consulte ce directeur spirituel sur ses occupations, ses exercices religieux, ses études. Elle se fait surtout obéissante afin d'éviter des excès ou de faire des folies. Elle sait que le jugement d'un homme plus âgé peut l'aider. Alors, elle obéit, oui, elle obéit exactement à ses moindres avis. Elle apprend dans l'obéissance la grandeur de cette vertu qui est si déconsidérée aujourd'hui qu'on la considère comme une imbécilité. Ce n'est pas nécessairement d'être imbécile que d'être obéissant, loin de là. Il faudrait bien qu'on se mette ça dans la tête. Il faudrait que j'en parle un jour. Là, je n'ai pas le temps. Elle essaie de temps en temps d'obtenir la permission, d'ailleurs, de pratiquer certaines austérités un peu fortes pour une petite fille. Elle y réussit parfois, mais bien rarement. Son directeur a quand même une tête sur les épaules, mais aujourd'hui, sans doute, il ne le permettrait jamais au XXe siècle, mais dans ce temps-là, c'était possible. Hein? En face d'un refus, elle se soumet d'ailleurs très gaiement. Elle ne se plaint pas. À 11 ans seulement, sa vie est déjà une vie de prière continuelle, mais dans la joie, le sourire, l'amabilité. C'est pas une fille qui capote, comme on dit aujourd'hui. Et bientôt, le bon Dieu va la favoriser de certaines grâces assez extraordinaires. D'ailleurs, elle a un ardent désir qui naît en elle de servir les pauvres. Mais un grand désir, ça existe, je vous l'ai déjà dit, chez des jeunes pas tellement pratiquants aujourd'hui dans Montréal, là, des jeunes qui vont plus à la messe, ça les intéresse pas, on sait pas trop pourquoi, ils ont de la misère à comprendre, on leur a jamais expliqué vraiment, et puis ils vont dans des résidences de vieillards, ils s'occupent des vieillards, ils s'occupent de gens malheureux. J'en ai même vu, moi, des jeunes ici à Montréal, qui sont pas nécessairement des catholiques fervents, assis sur le bord du trottoir et parlant avec des itinérants, essayant de les consoler. C'est touchant de voir un jeune garçon, deux jeunes filles qui ont 14-15 ans, qui aident, qui veulent aider. Mais elle est comme ça, elle. Elle veut vraiment servir les pauvres, faire du bien à tous. Alors Françoise Romaine éprouve de bonheur le goût de la vie du monastère. Vous connaissez ça, certains d'entre vous, hein? On éprouve ça, moi j'ai senti ça dès l'âge de 8-9 ans, hein? C'est curieux, hein? On a le goût de se cloîtrer. Et ça devient très fort à 11-12 ans. Elle l'a. Mais elle n'en parle d'abord qu'à son directeur, le bénédictin, là. Et celui-ci, pour la mettre à l'épreuve, fait des choses qui sont typiques de cette époque. Il lui fait pratiquer des austérités un peu étranges, celles qu'on trouve dans les ordres religieux les plus sévères. C'est un peu curieux. Bon, passons. Et là, ses parents, qui, je vous l'ai dit, qui étaient de famille noble, qui vivaient dans un palais, ont remarqué très vite des espèces de particularités de ce genre de vie que leur fillette faisait. Ils s'en sont inquiétés. Ils ont questionné Françoise à ce sujet. Alors, sur la vie de Don Antonio, le bénédictin, bien, Françoise leur fait connaître son désir de se consacrer à notre Seigneur. Puis elle demande la permission d'entrer déjà bien jeune au monastère. Ça se faisait à l'époque. Hein? Sainte Gertrude est entrée à 5 ans. On se dit, ça n'a pas de sens, mais c'était comme ça. Bon, je vous ai déjà raconté que j'en ai rencontré un, moi, vivant, là, qui était rentré à 13 ans, à la trappe d'Aiguebelle, qui était hôtelier, qui était très équilibré, très ouvert. Moi, je pensais qu'il était entré à 30 ans. Il avait vécu dans le monde toutes sortes de choses, mais pas du tout, il était entré à 13 ans. Quand il me l'a dit, il y a eu un grand éclat de rire. Il dit, ça vous surprend. Mais ça me surprenait parce qu'il était tellement équilibré et tellement normal comme trappiste, et tellement fidèle aussi, et tellement généreux et bon et accueillant. Hein. Et alors donc, les parents qui remarquent tout ça, se rendent compte qu'elle veut rentrer dans un monastère. Alors son père lui dit, imagination d'enfant. Il faut plutôt songer au mariage, ma fille. Car je vous ai promise à Lorraine, un père peut vous voyez ses enfants dans ces milieux nobles, hein, ne soyez pas trop surpris. Hein. Alors, je vous ai promise à Lorenzo Pondiani, c'est une grande famille ça, jeune homme noble, remarquable par ses vertus et ses talents, comme aussi par sa fortune et sa position. Hein. C'est vraiment un dialogue comme on en voit dans certaines pièces de théâtre de l'époque classique. Dans le cœur de notre Françoise, toute jeune, 11-12 ans, est broyée par ça. Elle voit que son père ne veut vraiment pas. Elle tente en vain, par ses larmes, d'amener son père à changer d'idée. Elle n'a pas encore 12 ans. Et son père demeure inflexible. Après avoir vu son directeur spirituel, bien Françoise Romaine, comme on l'appelle, donne son assentiment, elle accepte. Et là, le mariage est célébré. À la plus grande satisfaction des deux familles. Françoise est accueillie avec joie et tendresse dans la maison de son mari. Malgré tout, elle y apporte une espèce de grande peine, intime, mais discrète, qu'elle ne laisse pas trop paraître. Mais elle ne réussit pas à la cacher, sa peine, au regard pénétrant de sa belle-sœur, Vanozza, qui est la femme du frère aîné de son mari, Lorenzo. À cette belle-sœur, dont le dévouement sera vraiment inaltérable jusqu'à sa mort, mais elle confie le secret de sa peine. Puis elle lui dit que ses affections profondes sont ailleurs. En somme, qu'elle aurait désiré vivre pour Dieu seul, mais qu'elle va essayer de le faire dans le mariage. Alors, c'est le point de départ d'une amitié entre ces deux femmes. Ça va être la source des plus grandes consolations durant tous les problèmes qu'elles auront à endurer au cours de leur vie. Alors, Françoise se montre quand même une épouse vraiment dévouée. Elle est pleine d'affection pour son mari. Hein. Elle n'a que 12 ans. C'est une petite affection au début qui va se développer en amour. Hein. Alors, elle se conforme quand même au désir de son mari, Lorenzo, qui est un très bon mari. Elle consent à apparaître en public avec tout le décorum de sa position. Alors, bien que toute jeune encore, elle porte des vêtements très précieux de la noblesse, des bijoux que son époux lui offre et qui sont superbes. Très, très beau à cette époque. Hein. Mais sous les étoffes de soie qu'elle porte, elle cache un cilice déjà. C'est la coutume à l'époque, hein, chez ceux qui aspirent à la sainteté. Elle est fidèle à ses premières habitudes de piété. Elle continue tous les mercredis ses visites à Santa Maria Nuova, l'église préférée de sa mère. pour se confesser. Elle va se confesser chaque mercredi à Don Antonio. Elle communie aussi avec la même ferveur. C'était exceptionnel, communier chaque semaine, hein? Surtout pour une enfant, ça se faisait pas, on communiait quelques fois par année à l'époque. Alors elle est levée de bonne heure, elle prie, elle lit aussi, et au cours de la journée, bien, elle profite d'un petit moment de loisir pour prier encore et faire une visite à l'église. Elle a bien des occupations quand même, hein? Dans ses palais, les jeunes femmes sont chargées très tôt dans la noblesse de gérer certaines choses, pour s'habituer à gérer des grandes maisons avec des paquets de serviteurs. Et chaque samedi, elle a un entretien avec un dominicain, le prieur de Saint-Clément, qui l'instruit de certains sujets religieux. Alors, elle reçoit une excellente formation, on pourrait dire, de la Bible et puis de la théologie, de la pensée de l'Église. Mais cette vie austère, qui semble très austère chez une jeune personne de 12 ans, attire évidemment la critique de certains gens du monde. Hein. Elle en fait trop, dit-on. On la tourne en ridicule. Alors on demande à son mari, Lorenzo, de faire cesser ces espèces d'excentricités. Tu visites à l'église, la communion chaque semaine, tout ça. Alors cependant, ni lui, ni les autres membres de la famille n'osent arrêter ça, arrêter ses pratiques chez Françoise. Parce qu'il la considère comme un ange de paix. Elle est toujours souriante et aimable. Elle est tellement sympathique. Alors soudain, quand même Françoise tombe malade, elle semble être en danger de mort. Alors l'anxiété est grande chez ses parents, chez ses amis. Il voit dans cette maladie, comme on le voyait à l'époque, et même chez certaines personnes aujourd'hui, on voit ça comme un châtiment de Dieu. C'est épouvantable, comme si Dieu pouvait rendre malade quelqu'un pour le punir. Mais enfin. C'est la conception que l'on avait à l'époque. Dieu, je crois, souhaite qu'on soit en santé. Et l'état naturel d'un chrétien, c'est pas d'être malade, comme disait Pascal, j'espère, en tout cas. Alors, son père, surtout, lui reproche de ne pas avoir écouté, se reproche, en tout cas, de ne pas avoir écouté sa fille. Et seule Françoise reste calme. Elle accepte tout ça. Elle place d'ailleurs sa vie entre les mains de Dieu. Et puis, durant toute une année, elle est comme ça sur le seuil de la mort, de l'éternité. Mais tout à coup, grâce à Dieu, il y a un miracle qui s'opère. Elle est parfaitement guérie subitement. Alors, elle se lève en toute hâte pour remercier Dieu. Et sans éveiller ses gardes, elle avait des gars malades, comme on dit, ben elle va raconter sa vision à sa belle-sœur, Vanozza. Elle dit, maintenant que le jour est venu, hâtons-nous de nous rendre tous les deux à Santa Maria Nuova pour rendre grâce à Dieu. Alors, quand elle rentre à la maison, on considère Françoise comme une morte ressuscitée. On est tout surpris qu'elle soit debout, qu'elle soit déjà rentrée, allée dans une église. Alors, elle médite alors profondément ce que Dieu veut d'elle. Alors, elle propose un genre de vie plus sévère à Vanozza, qui l'accepte volontiers. Alors, elles conviennent toutes les deux qu'elles vont renoncer aux toutes sortes de divertissements inutiles. Les platitudes du monde, quoi. Alors, comme ça, elles vont consacrer à la prière puis à toutes sortes de bonnes œuvres des heures qu'elles perdaient dans le monde. Et dans une sorte, c'est amusant, dans une sorte de grotte à l'extrémité du grand jardin, ben, elles vont établir une espèce de petit oratoire pour les heures de raison, loin des serviteurs, loin du bruit, quoi, de la maison. Puis, elles déterminent certaines heures de la journée pour s'occuper des pauvres. Alors, elles vont visiter l'hôpital du Saint-Esprit, elles s'occupent des soins aux malades, de la distribution d'aumône aux plus pauvres. Et leur directeur, Don Antonio, le bénédictin, ne veut pas leur permettre quand même d'abandonner les robes splendides là, des femmes de leur rang. Mais il les autorise à porter sous leur très beau vêtement, un vêtement de laine un peu grossier contre leur peau, puis à pratiquer en secret quelques petites autorités. Il est assez exigeant là-dessus, il ne veut pas qu'elles exagèrent. Alors, des petits jeûnes, des petites abstinences, qu'elles se donnent quelques coups de discipline, comme on faisait très généralement à l'époque, ça se fait encore dans certains monastères, et puis d'autres petites pénitences corporelles, quoi. Alors, le peuple de Rome en arrive bientôt à les considérer toutes les deux comme des saintes. Hein? Alors, il y a des dames qui sont édifiées par leurs exemples. Elles en arrivent à vouloir les imiter. Et on prétend que le démon, de son côté, entreprend toutes sortes d'attaques pour entraver leur progrès. Alors là, il suscite chez elle des tentations, puis des souffrances étranges, et même des visions un peu tragiques. Un de ses pièges ordinaires est de suggérer à Cecilia, à leur belle-mère, l'idée que la vie ascétique, la vie disciplinée, quoi, va altérer leur santé, ces deux jeunes femmes. Et de là, bien, il y a une intervention de leur mari pour les obliger à paraître davantage dans le monde, dans toutes les réceptions, les danses, les petits bals, toutes les petites choses. Et le jour de juillet 1999, un jour, la Françoise a 15 ans, elle, et Vanessa, un peu plus âgée, elle se rend à Saint-Pierre, à l'église Saint-Pierre du Vatican. C'est pas la belle basilique Saint-Pierre d'aujourd'hui, hein, c'est l'autre avant qui a été détruite. Alors, elle se laisse absorber par la prière. Puis elle ne sort de l'église qu'après l'heure de midi. Là, elle se précipite à travers les rues les moins fréquentées pour retourner à leur maison, à leur palais. Elle s'approche un instant du Tibre pour calmer leur soif. C'est pas aujourd'hui qu'on boirait l'eau du Tibre. Quelle horreur! Faut voir, c'est horrible. Mais à cette époque, j'imagine que l'eau était plus propre. Alors, elles vont calmer leur soif, hein. Et comme elle se penche vers le fleuve, François reçoit, c'est spécifié, elle l'a répété et elle l'a affirmé, elle reçoit d'un bras invisible, on vous croirez ce que vous voudrez, d'un bras invisible, une espèce de coup violent qui la précipite dans l'eau. Et Vanotte, ça aussi, elle tombe avec elle. Le torrent du Tibre les emporte dans les bras l'une de l'autre, sans leur laisser entrevoir comment s'en sortir. Alors, elles implorent Dieu, évidemment, dans leur détresse. Et tout à coup, en un instant, elles se trouvent déposées, comme par des anges, sans aucun mal, sur le rivage. On raconte qu'il y a des événements qui sont arrivés comme ça au bout de l'île, ici dans l'ouest de Montréal, dans le bout de Beaurepaire, dans les années 15, je crois, à Madame Brault, la mère de Madame Poirier, qui venait chez moi visiter ma mère et qui racontait toutes sortes d'événements tellement étonnants qui entouraient cette femme, Madame Brault, que les évêques en étaient un peu éberlués. Et un prêtre a écrit sa vie, c'est très très intéressant, hein, le curé Bouillet de Magog. En tout cas, vers le même temps, Françoise Romaine reçoit la faveur d'avoir, dans son ange gardien, un conseiller qu'elle voit, mais personne ne peut le voir, elle, son ange, pour la reprendre de ses fautes les plus légères, pas la moindre imperfection, avant même qu'elle ait le temps de s'accuser et de se condamner elle-même. Elle sent le coup d'une main mystérieuse et le bruit parfois de ce châtiment, dit-on dans les vieux écrits, châtiment mystique, est entendu tout autour. Ça fait comme une espèce de petite claque. Hein. Alors, elle veut cacher ça à son directeur. Elle est mal à l'aise. Et puis, alors qu'elle cache ça à son directeur, eh bien, elle s'abstient de tout mentionner ça, mais elle est renversée par terre, justement, par ce conseiller spirituel. Il la renverse légèrement. Alors, elle comprend, puis elle confesse alors à son directeur la fausse humilité qui l'a trompée. Elle lui révèle donc, avec une parfaite franchise, toutes les relations passées et présentes de Dieu avec son âme. Et à partir de ce jour-là, elle expose tout avec une simplicité d'enfant. En 1040, c'est la naissance de son premier enfant. Elle a 16 ans. Il est immédiatement baptisé dans l'église de Santa Cecilia. Il reçoit le nom de Jean-Baptiste. Il va s'appeler Baptiste. Alors, Françoise veut le nourrir elle-même et pour lui prodiguer tous ses soins, ben, elle n'hésite pas à sacrifier quelques pratiques de charité puis de dévotion. Elle est une vraie mère, déjà à 16 ans. Elles étaient mûres, ces enfants-là. Et à ce moment, bien, elle perd son père. Et conformément au désir de son très bon père, qui lui avait exprimé, là, elle donne elle-même à cet enfant les premières notions de religion. Elle réprime chez son enfant toutes les apparences d'opiniâtreté, comme sont souvent les enfants. Hein. Et quand il s'obstine, elle le corrige. Quand il est en colère, elle lui manifeste de l'affection et elle lui fait changer son tempérament. Elle corrige donc ses défauts sans jamais céder à ses larmes et à son impatience. Elle le discipline, quoi, mais avec beaucoup d'amour. Et un an après la naissance de Jean-Baptiste, eh bien, à 17 ans, Françoise perd sa belle-mère. Et suivant le vœu de la famille, c'est elle qui est appelée à gouverner la maison des Ponziani, ce grand palais. Elle le fait avec tant d'ordre et d'intelligence que tous ont le temps de remplir leurs devoirs religieux. Parce qu'elle veille sur le salut de leurs âmes, hein, c'est la première de ses préoccupations. Elle ne peut supporter que Dieu soit insulté dans sa maison. Alors elle est douce, mais elle est ferme. Elle exige. Si quelqu'un de la maison tombe malade, là c'est elle qui est l'infirmière. Elle est la dernière des servantes. Et elle soigne la dernière des servantes aussi. Elle est une mère, une sœur. Si le mal se présente, elle va chercher un prêtre, même la nuit. Et si sa belle-sœur Vanessa est dangereusement malade, bien, et qui ne peut prendre aucune nourriture, elle s'occupe d'aller chercher ce qu'il lui faut. Alors elle est vraiment un ange de bonté dans cette maison, mais elle est intelligente, elle est une vraie mère, une véritable épouse, et pourtant, elle n'a que 17 ans. Alors ces mortifications quand même, car elle pratique certaines mortifications, sont assez sévères à certains moments, mais elle continue de s'occuper de ses enfants, à tout régler dans cette immense maison qu'elle habite. Elle visite les hôpitaux toujours, les pauvres malades, dans leur domicile. Elle va jusque dans les quartiers les plus pauvres de Rome. Elle fréquente les églises matin et soir. À 20 ans, elle donne naissance à un second fils, Jean Evangelista, ou Giovanni Evangelista, Jean l'Évangéliste quoi, qui est baptisé le jour même. Cet enfant paraît doué merveilleusement. D'ailleurs, à 3 ans, il a un certain don de prophétie, une faculté de lire les pensées des hommes, et il prédit à son père qu'il sera dangereusement blessé, hein, ce qui se réalise d'ailleurs au moment de l'invasion de Rome par les troupes de Ladislas d'Urazzo. Et 3 ans après Evangeliste, Sainte Françoise Romaine met au monde une fillette qui s'appelle Agnès, une enfant pleine de douceur, et comme elle-même, comme sa mère, douée d'une piété précoce, hein, comme le sont certains enfants. Je suis déjà allé, moi, chez des amis dont les enfants sont tellement pieux à 3-4 ans que c'en est émouvant. Hein. Mais ils prient le matin et le soir avec leurs enfants. Ils en ont beaucoup. J'ai un de mes amis qui a 9 enfants, et un autre en a 15 ou 16. Mais je parle aussi de mes amis qui n'en ont que 3 ou 4, mais qui prient avec leurs enfants. Et c'est très beau, très, très beau. Quand ils les prennent très jeunes, hein, et les enfants semblent aimer prier, aimer sortir tout à coup de leurs jouets concrets, de leur télévision, de leurs livres, de leurs jeux, pour s'agenouiller avec leurs parents devant une icône. Et parfois, dans une famille, ils ont la présence réelle, et de pénétrer au fond dans le monde de l'invisible. Les enfants aiment. Évidemment, c'est le fruit du baptême, et c'est le fruit de la grâce. Alors, Françoise pressent qu'elle va être appelée, cette petite Agnès, à la vie religieuse, alors elle s'en occupe très, très, très étroitement. Mais après la mort du pape Alexandre V en 1410, le Ladislas d'Urazzo, dont je vous ai parlé, menace Rome une seconde fois. Et en trompant le nouveau pape élu, puis en simulant la paix, bien, il s'empare de Rome. Il met la ville au pillage. Alors on conseille à Lorenzo, le mari de Sainte Françoise, de prendre la fuite. Françoise se trouve exposée au plus grand danger. Elle est demeurée seule dans le palais, sans protection, avec ses 2 jeunes enfants, Agnès et Evangelista. Bientôt, la mort va lui ravir ce dernier. Son petit meurt, petit garçon. Le palais est désolé. Il est transformé en hôpital temporaire. Françoise et sa belle-sœur Vanessa recueillent les affamés, les malades. Elles en guérissent un grand nombre. Elles en convertissent d'autres. Mais les ressources manquent. Alors les 2 belles-sœurs ont dû encore mendier pour leurs hôtes. Alors on voit Françoise qui se rend au petit vignoble qu'elle possède près de Saint-Paul-Orléans-Mur. Elle y ramasse même des fagots comme les femmes les plus humbles. Des branches sèches. Elle ramène le tout sur un âne, puis elle traverse la ville, puis elle s'arrête devant les habitations les plus pauvres pour distribuer du bois, pour que les pauvres puissent se chauffer ou puissent cuire leurs aliments. Alors, ces actes de charité sont accompagnés de nombreux miracles. Et 1 an après la mort de son petit garçon Evangelista, bien, cet enfant lui apparaît. Il lui révèle le bonheur qu'il jouit au ciel, dont il jouit au ciel. et il lui annonce le prochain décès de sa petite sœur Agnès, qui ne sera pas religieuse finalement. Et après ce nouveau deuil, Françoise a toujours cet ange curieux qu'elle voit, mais que personne ne voit. Hein? Vers 1414, elle tombe malade, elle a 30 ans. Alors presque tout le monde craint la contagion. C'est les épidémies. Alors seule Vanotza dans le palais demeure à son chevet. Elle est calme au milieu de ses souffrances. Et Françoise accomplit ses œuvres de dévotion avec autant de force que lui permet cette maladie terrible. Et Dieu ne permet pas qu'elle meure heureusement. Et après plusieurs mois de souffrance, sa santé est rétablie soudainement comme l'autre fois. Et c'est à cette époque de sa vie qu'elle aura des visions terribles de l'enfer. Encore une sainte qui a des visions terribles de l'enfer. Et la mort de Ladislas Durazzo, l'envahisseur, rend la paix à la ville de Rome. Là, les souffrances de la famille Ponziani ont enfin un terme. Là, les Ponziani sont rappelés de leur exil, puis leurs propriétés leur sont rendues. Alors là, Lorenzo et son fils Battista, le seul fils qui lui reste, quoi, reviennent dans leur palais. Françoise, Sainte Françoise romaine, à force de prière, elle obtient de son mari qu'il se réconcilie avec son ennemi. Lorenzo renonce à la vie publique. Il va se sanctifier et se livre presque entièrement à la pratique de la perfection spirituelle, à l'exemple de sa femme. Et Françoise romaine, de son côté, exerce au dehors un apostolat qui est fécond. Au point, dit-on, qu'elle a converti un bénédictin. C'est pas peu dire. Alors, l'obéissance de Françoise romaine envers son époux, son mari, et son directeur aussi, eh bien, c'est récompensé par un miracle. Vanotza et elle ont demandé à Don Antonio la permission de visiter la châsse de l'église Sainte-Croix en Jérusalem. Elle se promène en pratiquant la modestie du regard, sans regarder, et un taureau qui s'est échappé, mais qui ne les attaque pas. Alors, on marie finalement son enfant, son fils Battista. Mais malheureusement, sa femme n'est pas très sympathique. Alors Françoise prie, puis elle amène à convertir sa belle-fille. Et cette belle-fille devient une femme vraiment remarquable, et Françoise romaine lui remet finalement la direction, le soin de régler toutes les affaires de la maison. Elle peut donc se dévouer plus facilement aux pauvres et aux hôpitaux, près des hôpitaux. Alors, il s'agit alors de préparer la grande œuvre qui fera époque dans sa vie. Et son mari lui donne la plus entière liberté. Elle a vraiment un très bon mari. Mais il lui met une condition. Si elle veut fonder une espèce de congrégation religieuse, elle ne doit pas cesser d'habiter la maison. Elle doit rester avec lui et auprès de lui. Elle doit le guider, dit-il, dans la voie où elle l'a conduit jusqu'alors. Il a besoin de sa femme pour devenir un saint. Il a besoin de sa femme pour le diriger spirituellement. C'est extraordinaire. Et quel couple, quel mariage exceptionnel. C'est rare, malheureusement bien rare. On a vu Jacques et Reich Samaritain dans ce siècle faire la même chose. J'ai entendu parler de quelques autres couples que je ne peux pas nommer. L'église de Santa Maria Nuova, je vous l'ai dit, c'est sur le forum. C'est ça qui va devenir l'église Sainte-Françoise romaine. Mais c'était depuis une cinquantaine d'années desservie, je vous l'ai dit, par des bénédictins, des olivetins, comme on les appelait. C'est une branche des bénédictins. Alors, cette congrégation que veut fonder Françoise est formée sur le même modèle que les olivetins. Dans ses visites à cette église, Françoise a souvent rencontré d'autres femmes, des amies, des imitatrices qui l'accompagnaient auprès des pauvres. Et un soir, en sortant, elle leur parle de l'ordre de Saint-Benoît, qu'elle aime beaucoup, puis de la sainteté de Saint-Benoît. Je vous rappelle qu'on vous parle du presbytère de la paroisse Saint-Benoît, hein? Ce Saint-Benoît qui a fondé les bénédictins en 540. Alors, elle parle aussi des vertus et des bonnes œuvres des bénédictins, car les bénédictins avaient des œuvres, hein? C'était pas des gens complètement cloîtrés. Et il y aurait aussi, comme ça, leur dit-elle, une facilité qu'elles auraient à participer à cet esprit des bénédictins. Alors, elles accueillent volontiers les idées de Sainte Françoise romaine. Leur directeur, Don Antonio, à qui elle en parle, se montre favorable. Alors, se forme donc une association qu'on appelle les Oblates de Marie, qui sont admises à participer en quelque sorte à l'ordre de Saint-Benoît. Et le jour vient, le 15 août, le jour de l'Assomption, 1425, neuf dames romaines, oui, des dames, des espèces de bourgeoises, si on veut, mais qui ont du cœur. Il n'y a pas que les pauvres qui ont du cœur. Les riches sont appelés aussi à la sainteté. Les gens d'Outremont, de Westmount, là, réveillez-vous. Et avec Françoise, donc, ces femmes se vouent au service de la Sainte Vierge, conformément à la formule des moines onivétains. Mais elles s'affilient simplement à l'ordre. Elles n'ont pas de vœux solennels comme les moniales ou les moines. Tel est le commencement de la congrégation dont Françoise Romaine est la mère, la fondatrice. Et dans les premiers temps, bien, leur directeur ne leur assigne aucune occupation spéciale. Il leur recommande seulement la soumission, c'est simple, hein, au commandement de Dieu puis de l'Église. Il les excite, là, une profonde dévotion aussi envers la Sainte Vierge. Puis surtout, la participation au sacrement. Donc, se confesser, donc, avoir une direction spirituelle profonde. Savoir reconnaître ses fautes. Savoir aller de l'avant dans sa démarche vers Dieu, l'union à Dieu. Et aller à la messe, recevoir le corps vivant de Dieu. Puis aussi, pratiquer les vertus chrétiennes profondes, de charité. Jamais oublier ceux qui ont du chagrin. Alors le lien entre elles consiste dans leur fréquente visite à l'église de Santa Maria Nuova, où elles reçoivent la communion à toutes les fêtes de Notre-Dame. Il y en avait beaucoup dans le temps, encore plus qu'aujourd'hui. Puis elles ont sans doute recours aux avis de Sainte Françoise. Et ses plus simples paroles sont pour elles, toutes ces femmes, des ordres. Et sa conduite leur sert d'exemple. Et dans l'été de 1426, bien, Sainte Françoise, sa belle-sœur Vanozza et une autre, Rita, ont fait le pèlerinage au tombeau de Saint François d'Assise. Et on a convenu de faire ce voyage à pied, sans argent, sans provisions, et sans les objets les plus nécessaires. Pour des bourgeois, c'était quelque chose. Hein? On voyageait jamais comme ça, jamais. Encouragés donc par les avis de leur directeur, Françoise Romaine en particulier étudie les moyens d'établir la congrégation, puis elle profite d'une absence de son mari pour réunir ses oblates dans son palais. Elle leur expose son dessein de former une communauté. Puis après différentes recherches, on trouve, non loin de Santa Maria Nuova, un bâtiment. C'est la vieille tour, dite des miroirs, Tor di Specchi, dont l'acquisition est faite. C'est toujours un couvent de ces oblates aujourd'hui. Ça existe toujours. C'est fait à la fin de 1432. Alors Françoise, obligée de demeurer près de son mari Lorenzo, mais elle s'occupe des constitutions puis des règles dont les points sont discutés là, avec ses coadjuteurs. Et comme on ne parvient pas à s'entendre toujours, c'est normal, hein, on a convenu de s'en remettre à Dieu. Il y a des visions de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge prend conseil. Et tout est fixé, finalement, dans les moindres détails. Il en résulte une série de règles qui sont encore observées par les oblates de Tor di Specchi. Le 25 mars, le jour de l'Annonciation, en 1433, mais ces oblates, au nombre de 10, après avoir entendu la Sainte Messe et communié dans l'église de Santa Maria in Trastevere. Êtes-vous déjà allé visiter ça? C'est une des plus belles églises du monde. Qu'elle est belle. Sobre, sévère, mais très belle. Hein? Elles se sont rendues là en procession. Et puis, la maison qu'elles doivent habiter. Et elles revêtent finalement l'habit qu'elles ont décidé de porter. Et puis, elles commencent leur vie de prière et de charité. Ce sont des veuves. Hein? Sauf Françoise. Son mari accepte tout ça. C'est un bon mari. Hein? Alors, elles sont en but à certaines critiques et des persécutions, évidemment. Le pape Eugène IV a confirmé la règle qu'elles ont établie en 1444, et Sainte Françoise, qui est obligée de rester auprès de son époux, n'a pas pris l'habit, évidemment, elle. Elle porte toujours des vêtements simples. D'ailleurs, elle établit une supérieure dans la maison. Au cours de ses visites fréquentes, elle ne veut pas être distinguée des autres. Elle se considère comme une simple femme. Elle ne manque pas de demander la bénédiction, d'ailleurs, à la supérieure, qui s'appelle Agnès de Sellis. Après vous voyez, de Célis, probablement une noble encore. Et après 40 années de mariage, elle assiste son mari, Lorenzo, durant sa longue et pénible maladie. Et quand elle lui ferme les yeux, mais là, elle prend congé de sa famille, ses enfants, son fils est marié, les deux autres sont rendus au ciel. Elle se présente donc à Thor Dispecchi, non comme fondatrice, mais comme une humble femme, qui postulante, quoi, qui demande son admission. Au pied de l'escalier, elle pose des gestes qui sont typiques de l'époque. Ça ferait un très beau film. Elle ôte sa robe noire, une belle robe noire, hein, son voile, ses souliers, qui étaient sans doute très beaux. Elle met une corde à son cou. C'est un symbole, hein, de la dépendance. Oh, on ferait plus ça aujourd'hui. Hein. Quelle femme oserait mettre une corde à son cou? Elle s'agenouille. Elle baise la terre, comme fait le pape. Hein. C'est des vieilles, vieilles coutumes. Hein. Baiser la terre. Puis là, elle fait à haute voix sa confession générale en présence de toutes les oblates. Et cette femme, noble, digne, elle demande la permission de demeurer parmi elles, comme la plus humble de leurs servantes. Alors on s'empresse de la relever, évidemment, on la revêt de l'habit de l'orne. On l'amène à la chapelle pour rendre grâce à Dieu. Et au chapitre, bien, la supérieure, Agnès de Célis, déclare qu'elle veut sans tarder lui remettre l'autorité. Mais Françoise ne veut pas, elle résiste. Et là, le directeur spirituel, dont Giovanni le moine, là, doit intervenir. Il lui ordonne d'accepter cette charge. Durant les dernières années, bien, Françoise Romaine reçoit plusieurs avis de sa fin prochaine. Le 3 mars 1440, elle est appelée par son fils Battista, qui est retenu par un accès de fièvre. Alors, elle va le voir. Elle se rend immédiatement au palais Ponziano, parce que son fils a hérité du palais. Elle trouve son enfant beaucoup mieux. Alors, elle consent à passer la journée avec les siens. Vers le soir, elle se trouve si faible qu'elle peut à peine se tenir debout. Alors, elle persiste néanmoins à vouloir retourner à pied au couvent. Elle s'arrête en chemin à l'église de Santa Maria in Trastevere, dans Trastevere, là. Elle trouve Don Giovanni dans la chapelle des anges. Elle lui demande sa bénédiction. Il est frappé, lui, par sa pâleur et son épuisement. Alors, il lui commande au nom de l'obéissance, là. Il sait qu'elle est têtue, alors il faut qu'il lui commande au nom de l'obéissance de retourner immédiatement au palais Ponziano pour y passer la nuit. C'est pour elle une nouvelle épreuve, elle aimerait mieux mourir parmi les siennes. Alors elle sent que si elle ne rentre pas maintenant à Thor Dispecchi, elle n'en reverra plus les murs. Mais elle obéit, et durant la nuit, bien, une fièvre violente se déclare. Dès le matin, Françoise envoie chercher son directeur et prévenir ses filles spirituelles. Quatre d'entre elles accourent et comprennent qu'elle va bientôt les quitter, alors Sainte Françoise Romaine les console doucement. Elle les congédie vers le soir, sauf Augustina qui demeure pour la veiller. Et puis, elle est témoin de son extase, sa Françoise. Notre Seigneur, en fait, lui apparaît. C'est son amie, Françoise. Il lui annonce que dans 7 jours, elle mourra et qu'elle recevra au ciel, bien, sa récompense. Et pendant les 2 jours qui suivent, elle souffre beaucoup. Elle ne laisse échapper aucune plainte. Elle demande des sacrements, elle se confesse, elle communie, elle reçoit l'extrême onction. Ses lèvres ne laissent échapper par moments, mais continuellement, de brèves prières. Dans la matinée du 9 mars, les oblates viennent recevoir ces dernières instructions. Une seule, Francesca dei Veruli, manque. Elle est retenue au lit par une grave maladie, et les dernières paroles de Françoise, mourante, à ses filles, sont touchantes et douces. Elle dit, aimez-vous les unes les autres, et soyez fidèles jusqu'à la mort. Satan vous attaquera comme il m'a attaqué, mais ne craignez rien. Vous vaincrez Satan par la patience et l'obéissance. Ben oui, par la patience et l'obéissance. Ces deux vertus qui sont très, très déconsidérées de nos jours. Pourquoi être patient quand on peut se fâcher, laisser sortir tout ce qu'on a à dire, crier, hurler, se disputer? Être patient. L'obéissance, on n'en parle plus. Alors nulle épreuve ne sera trop cruelle, dit-elle, si vous êtes unis à Jésus. Bien oui. Alors elle remercie Don Giovanni en son nom et au nom de l'ordre. Elle le remercie plusieurs fois. À ce moment, son fils Baptista, qui était malade, entre dans sa chambre. Elle jette sur lui un regard scrutateur, puis elle lui fait un reproche. Elle dit, « Se peut-il, mon fils, que vous vous soyez querellé avec de pauvres bergers et que vous ayez ravi à Dieu sa gloire pour un trafic illégitime? » Et son fils est étonné qu'elle connaisse ses mauvaises actions. Alors il a les larmes aux yeux, il avoue. Et tout cela prouve aux assistants qu'elle n'était pas dans le délire quand elle parlait comme ça. Alors il avoue en même temps qu'il a en secret consulté une sorcière pour savoir, une espèce de quoi, de jeu au savoir, j'imagine, pour savoir si la guérison de sa mère était possible. Personne ne connaissait son double péché. La remarque de la mourante fond sur lui, comme un reproche direct de Dieu et comme un avertissement solennel pour le reste de tous ses jours. Et là, à la fin de la journée, Sainte Françoise Romaine devient de plus en plus faible. Alors Don Giovanni lui demande, « Que dites-vous? Que dites-vous? » Et dans un, parce qu'elle remue les lèvres, alors elle dit, « Les vêpres de la Sainte Vierge. » C'est tout ce qu'elle veut, les vêpres de la Sainte Vierge. Et dès son enfance, elle avait adopté cette pratique qu'elle continue ainsi jusqu'au soir de sa vie. Une expression sublime anime son visage. Son confesseur lui demande pour la dernière fois ce que ses yeux ravis contemplaient. C'est ça qu'on voit souvent quand les saints meurent. Ils ont souvent les yeux ravis. Il y a des témoins de ces choses-là même de nos jours. J'en entends parler, moi, dans des communautés religieuses. Quand une sainte religieuse meurt, il y a des témoins autour. C'est la même chose pour des mères de famille qui sont des saintes et qui meurent. Elle dit, le ciel s'ouvre, les anges descendent, l'archange a fini sa tâche. Il est debout devant moi et me fait signe de le suivre. Ce sont ses dernières paroles. Et un sourire inexprimable brille sur son visage. Et son âme quitte la terre. C'est le 9 mars 1440. Françoise Romaine a laissé le récit de 97 visions qu'elle a dictées elle-même à son confesseur. Vous savez que ce n'est pas la seule. Il y a de très nombreux et merveilleux récits de visions de certaines saintes qui sont très beaux à lire, grandioses même. Alors plusieurs miracles ont suivi le décès de Françoise. La foule des Romains s'est portée auprès du palais des Ponziani, où elle est morte, pour prier auprès de son corps et pour essayer évidemment d'enlever quelques reliques. Et suivant le désir qu'elle avait exprimé, son corps a été porté à Santa Maria Nuova pour y être inhumé. Lorsque le cortège est passé près de son couvent de Tor di Specchi, où Francesca di Veroli était étendue sur son lit de douleur, et celle-ci a demandé la faveur de pouvoir contempler la défunte de la fenêtre. Elle a pu un peu s'approcher. Elle était guérie en le touchant. Dès l'année 1440, des recherches exactes et détaillées ont été faites en vue de la canonisation. Celle-ci a subi quelques retards. Elle n'a pu être prononcée que sous Paul V en 1608, elle qui est morte en 1440. Et interrogé sur l'opportunité de la canoniser, le cardinal Saint-Robert Bellarmin avait fait cette déclaration suivante qui est très intéressante et très belle. La sainteté proclamée de Françoise Romaine profitera d'une façon merveilleuse aux diverses classes de personnes, c'est-à-dire aux vierges, aux femmes mariées, aux veuves, et même aux religieuses. Or, après la canonisation, l'église de Santa Maria Nuova a reçu le vocable, je vous l'ai déjà dit, de Sainte Françoise Romaine. Vous pouvez aller voir son tombeau là-bas. C'est le dernier confesseur de Françoise, Don Mattiotti, qui a écrit sa vie en latin. On la trouve, cette vie, dans les Acta Sanctorum, à la date du 9 mars. C'est un récit, donc, qui date de l'époque. C'est un récit qui est écrit par un moine, qui a été écrit par un moine sérieux. C'est un récit qui est fort bien fait. Il n'y a pas de doute, je lis ça dans un livre, que l'égalité de dignité et de responsabilité entre l'homme et la femme justifie pleinement l'accession de la femme aux fonctions publiques. Il est du reste nécessaire que ces fonctions et ces professions soient étroitement liées entre elles, si l'on veut que l'évolution sociale et culturelle soit vraiment et pleinement humaine. Cela s'obtiendra plus facilement si une théologie du travail, renouvelée, arrive à mettre en lumière et approfondir le sens du travail dans la vie chrétienne, comme aussi à déterminer le lien fondamental qui existe entre le travail et la famille, et donc la signification originale et irremplaçable du travail à la maison et de l'éducation des enfants.